invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Ce matin, nous allons nous intéresser à quelques versets dans le chapitre 3. Et je regarde l'heure et je dois vous avouer, je pense que c'est le plus tard qu'on a commencé le message depuis bien longtemps. Normalement, à peu près 11h, 11h05, on commence le message là, plus tard. Mais n'ayez crainte, on n'ira pas très longtemps ce matin, parce que le message sera simple, sans être simpliste. Donc, j'espère et je prie pour que le message de ce matin touche chacun. C'est vrai, aujourd'hui, on met l'accent sur les mères, et cela est convenable. Dieu nous les a donnés, et comme j'ai dit tout à l'heure, sans elles, on ne serait pas ici. Et le sujet dont on va traiter, bien sûr, s'applique aux mamans, mais aussi aux papas, aux enfants, à chacun. Et dans Jean chapitre 3, vous savez, je suis certain, Jésus, il a un visiteur. Quelqu'un vient le trouver pour lui poser des questions. Commence avec une affirmation au début du chapitre et suite à cela, Jésus se lance dans une explication à cet homme, Nicodème en l'occurrence, de qu'est-ce que c'est en fait le royaume de Dieu. Alors que Nicodème, ce n'était pas du tout le sens de sa question ni de son interrogation, et pourtant Jésus savait que c'était son besoin, il fallait qu'il l'emmène là. Et ce matin, nous allons nous intéresser au verset 14 jusqu'au verset 18. Bien sûr, tout le chapitre est un ensemble, mais ces versets particulièrement vont nous intéresser ce matin. Permettez-moi de les lire, alors que vous suivez, et venez, nous verrons ce que le Seigneur dira pour nous. Alors, Jean chapitre 13, verset 14, Jean chapitre 3, pardon, verset 14 jusqu'à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils et de Dieu. Alors, comme j'ai dit, les versets connus, ceci va être dans un sens simple. Ce que Jésus explique dans ces versets à Nicodème, c'est très simple. Et Jésus va reconnaître que Nicodème était le docteur en Israël. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas juste un homme simple de la rue sans grandes instructions. Non, Nicodème, il faisait partie du Sanhédrin, et l'équivalent de la Cour suprême en Israël. C'était eux qui décidaient les affaires religieuses. Et Nicodème faisait partie de ce groupe privilégié de 70 hommes qui étaient là. Et Jésus va lui expliquer dans des termes simples, avec des images quand même simples, des vérités profondes. Et bien sûr, nous mettons souvent l'accent sur verset 16. Verset 16 qui est même au-dessus de la porte. Ici dans notre église, Dieu a tant aimé le monde. Et on met l'accent sur l'amour de Dieu. Et cela est juste. Et il faut. C'est en partie l'amour de Dieu qui l'a poussé à envoyer son propre Fils ici sur la terre. Mais pour nous, si nous sommes chrétiens, certains ici le sont de longue date, par la grâce de Dieu, je le suis depuis longue date, converti à un jeune âge, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis allé à l'église depuis, on va dire, avant ma naissance, étant donné que ma mère y allait, moi-même obligé d'y aller, on va dire malgré moi. Et du coup, avec toutes ces connaissances, ce sont des choses que moi je connais, et pourtant, pour nous qui connaissons bien cette histoire, pour nous qui connaissons bien ces vérités, il est possible que ça devienne routine, que cela ne nous affecte pas comme ça devrait. que nous tombions indifférents, que nous soyons oublieux concernant ces vérités. Et aujourd'hui, alors que nous mettons l'accent sur les mères, les mamans, leur amour qu'ils portent envers leurs enfants, l'amour qui doit exister entre mari, femme, l'amour qui doit exister dans ma famille, l'amour que le monde recherche et qu'il ne trouve pas parce qu'il ne le trouve pas en Dieu, enfin, c'est à cet amour-là qu'il faut revenir. Cet amour en Dieu est justement se laisser dans ce sens bouleversé par l'amour de Dieu. Pour se dire, Dieu, continue de me changer dans ce sens, affecte-moi, change-moi par ton amour. Et il faut être, oui, bouleversé par l'amour de Dieu, parce que lorsque nous lisons le verset 16, comment pouvons-nous rester indifférents? C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à donner son Fils unique. Si vous avez une chose, et il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'autres exemplaires de telle chose, cette chose est unique, bah, vous y tenez. Papier, à souvenir, autre chose. Vous étonnez si quelque chose est unique. Il n'y a qu'un seul, un seul exemplaire. Et Dieu, il avait son fils, son propre fils, et il n'en avait pas concilié. Il n'en avait même pas deux. Ce n'est pas comme s'il pouvait dire, d'accord, je donne un fils, mais bon, j'en aurai quand même. Ah. Aucun parent, même si ils avaient plusieurs enfants, ne réfléchirait de cette manière, au moins j'espère. Vous qui êtes parents, vous ne diriez jamais, parce que j'ai plusieurs enfants, ben c'est pas la peine si j'en perds un. Hein, non. Non. Mais combien plus, si vous n'en avez qu'un seul, imaginez combien vous tenez à cet enfant. Et si jamais quelque chose devait arriver à cet enfant, imaginez votre état, votre tristesse, votre chagrin. Et Dieu se trouvait dans cette situation. Lui, il avait son propre fils, qu'il a envoyé sur la terre, non pas pour être bien reçu, non, pour être rejeté, pour être mal compris, pour être accusé injustement, pour être calomnié. Et verset 16 nous dit, il a donné, dans ce sens, donné à l'extrême. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, et au bout de cette vie parfaite, il n'a rien fait de mal. On l'a accusé injustement et on l'a trouvé sur une croix. Il est réellement mort. Il a été réellement séparé d'avec son Père, ce Père avec lequel il jouissait d'une relation depuis toute l'éternité. Cette relation qui n'avait jamais auparavant été rompue. Et autant Jésus-Christ était dans la souffrance physique, morale, sur la croix, Dieu, le Père, dans le ciel, l'était également lorsqu'il a dû tourner le dos à son Fils, parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Et Dieu a donné son Fils. Nous entendons tellement souvent, et nous le disons, Dieu a donné son Fils, Dieu a envoyé son Fils, mais nous rendons-nous compte de l'ampleur de cela, tout ce que cela implique. Philippiens chapitre 2, nous n'aurons pas le temps ce matin d'aller regarder ce passage, mais je vous invite à noter ce passage et d'aller étudier cela, méditer ce passage tout à l'heure. Philippiens chapitre 2, où Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et il a quitté la gloire céleste pour venir habiter sur la terre, pour aller sur la croix pour nous. Serions-nous prêts à faire un centième ce que lui il a fait, de subir l'abaissement et l'humiliation que lui il a subi? Et Jésus-Christ l'a fait. Et Dieu, de son côté, était prêt à laisser son enfant faire cela. Je ne me rendais pas compte en 2000, on va dire 2003, la première fois que je suis venu plus exactement ici en France, je ne me rendais pas compte de la manière dont cela affectait mes parents. Pour moi, j'avais 16 ans, presque 17 ans à l'époque, déjà, voilà, je vais à l'étranger et tout, moi tout était bien. Mais c'est par la suite, mes parents m'ont expliqué un peu l'état dans lequel ils étaient. Ils m'accompagnent à l'aéroport, on fait partout, et puis ils me voient partir pour embarquer sur l'avion. Une fois que je suis parti, ma mère se tourne vers mon père et elle a dit, mais Roland, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a envoyé notre fils dans un pays dont il ne connaît pas la langue. Il connaît deux ou trois personnes, c'est tout. Il n'a jamais pris l'avion, il n'est jamais allé en France, d'ailleurs il n'est jamais allé à l'étranger, parce que pour moi le Canada c'est pas exactement l'étranger, c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé notre fils, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, par la grâce de Dieu, rien n'est arrivé, tout s'est très très bien passé, et voilà, Dieu a utilisé ce voyage pour confirmer dans mon cœur qu'il voulait que je travaille en France. Mais mes parents ont ressenti, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce que Dieu lui a dû ressentir. Imaginez-vous, Dieu, bien sûr, il sait ce qui va se passer. Il connaît la fin de l'histoire. Et pourtant, cela n'enlève en rien ce par quoi Dieu est passé. Il a dû laisser son fils venir ici sur la terre, être maltraité par des hommes à cause de nous. Alors, si ce n'est pas l'amour, ça, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est l'amour qui doit nous bouleverser. Et ce qui doit encore nous bouleverser dans cet amour de Dieu, c'est que Dieu l'a fait pour nous, alors que nous étions ses ennemis. Nous avons entendu ce matin dans Jean chapitre 15, Jésus, à la fin de sa vie, juste avant son arrestation, il dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Paul, il va dire dans l'Épître aux Romains, à peine mourrait-on pour un juste, à peine. Mais pour nous qui étions ennemis de Dieu, Romains chapitre 5, verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, littéralement, à notre place. De nouveau, Éphésiens chapitre 2, nous étions morts dans nos offenses et dans notre péché. Ce n'est pas comme si nous méritions l'amour de Dieu, ce sacrifice de sa part. Non, 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 non. Nous étions tellement éloignés de lui. Nous ne voulions rien savoir sur lui. Et pourtant, c'est son amour qui le pousse ici, comme Jésus va l'expliquer, a donné son fils. Et nous sommes au bénéfice de cela. Et ce qui est formidable avec ce verset 16, on le voit à plusieurs reprises dans ces versets, ce quiconque, je suis tellement content que Jésus a choisi, bien sûr, il est Dieu, il savait ce qu'il faisait, mais il a choisi ce mot-là. Parce qu'il n'a pas dit un certain groupe, des hommes, des femmes, des gens de tel ou tel arrière-plan, que des intellectuels, que des travailleurs. Non, il a dit quiconque. N'est-ce pas merveilleux cela? C'est ça qui a permis à vous, à moi, de faire ce choix, si nous l'avons fait. Et bien sûr, c'est un choix, on reviendra sur cet aspect dans quelques instants. Mais Dieu a tant aimé le monde, toute l'humanité, chacun de nous individuellement, qu'il s'est offert en sacrifice pour nous individuellement. On parle parfois des groupes, on parle des Français, on parle des Normands, on parle des Parisiens, souvent en mal d'ailleurs. On parle de tel ou tel groupe. Et ici, dans un sens, Dieu dit, oui, je parle du monde, j'ai aimé le monde, mais je me suis donné pour chacun. Lorsqu'un groupe devient trop grand, il est impossible de connaître chacun individuellement. Je loue le Seigneur que notre Église est assez petite pour que je puisse assez bien connaître chacun d'entre nous. Quand j'entends parler de ces églises, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, je dis, mais Seigneur, préserve-moi de devenir pasteur de cette église-là. Je ne pourrai pas. Impossible d'avoir une relation avec chaque membre dans cette église. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont plusieurs pasteurs. Et lorsqu'un groupe est trop grand, il est impossible pour nous de bien connaître tout le monde. Et Dieu, il peut. Et Dieu voit chacun d'entre nous. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il était en train de mourir pour nous. Et nous pouvons mettre là, il était en train de mourir pour moi. Robert, là vous mettez votre nom. Et si nous avons accepté par la foi ce sacrifice sur la croix, nous pouvons dire oui, il est mort pour moi. Et Jésus explique que oui, Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique. Mais les versets autour nous montrent qu'il y avait un but spécifique à ce que Dieu faisait et que Dieu a tout accompli de son côté. C'est quand même merveilleux. Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse et dans son amour infini, il met tout en place, du début jusqu'à la fin. Il voit la condition de l'homme et il se dit, je dois faire quelque chose. Je veux faire quelque chose pour l'homme. Je veux rétablir cette relation qui a été perdue en Éden. Et du coup, je vais envoyer mon propre fils sur la terre. Il va mourir pour les péchés des hommes. Et Dieu a tout accompli de son côté. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour, gloire à Dieu. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Parce que si Dieu a tout fait de son côté, de notre côté, il y a quelque chose à faire également. Verset 14, on y revient. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, une histoire que Nicodème connaissait très très bien, ce jugement envoyé par Dieu des serpents qui vendaient et puis les gens mouraient suite à l'incrédulité du peuple. Nicodème connaissait très bien cela. Jésus dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Afin que, un petit mot de trois lettres en grec, mais qui nous montre que le but de l'élévation de Jésus-Christ, c'était que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et verset 16 continue, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comment? En croyant. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et vous l'avez relevé à quatre reprises ici, Jésus dit, il faut croire. Et une décision de la part de l'homme doit intervenir. Dieu a tout fait de son côté. Que demander de plus de la part de Dieu? Rien. Il a tout accompli. Jésus-Christ l'a dit lui-même sur la croix, ses dernières paroles, tout est accompli. Mais maintenant, il ne reste à faire une chose. C'est de croire. Un acte de foi. Et comment faire un autre choix, c'est-à-dire comment ne pas faire ce choix face à la mort de Dieu. Lorsque nous voyons tout ce que Dieu a fait pour nous, imaginez quelqu'un dans la vie se donne à ce point-là. Quelqu'un se donne tout entier pour nous. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas réagir face à cela? Quelle ingratitude ce serait de rester indifférent et de ne rien faire suite à quelqu'un qui serait donné pour nous. Et Jésus dit, le but de sa venue, ce que Dieu attend, étant donné que lui, il a tout fait, c'est pour nous croire. Croire en son sacrifice sur la croix. Pas simplement être d'accord, j'ai mis l'accent là-dessus il y a quelques semaines lorsqu'on a parlé justement de la foi. C'est pas simplement être d'accord. Il faut être d'accord. Dans la foi, il ne peut pas avoir de désaccord. Mais la foi, selon la Bible, est bien plus qu'un simple connaissance et être d'accord avec un ensemble de vérités. Ça va au-delà. C'est se approprier soi-même pour dire, oui Dieu, tu as raison, j'ai tort, et maintenant je me confie entièrement en toi. Parce que mes efforts ne sont pas suffisants, les efforts des autres ne sont pas suffisants, toute mon ancienne croyance est insuffisante, et je m'appuie, je me confie totalement en toi. C'est une décision de la volonté qui va être prise. Et chacun individuellement doit faire ce choix. Et c'est la démarche logique attendue de Dieu face à tout ce qu'il a fait pour nous. Il est là et il se dit, j'ai tout fait, j'ai tout accompli. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux? Et tout cela, nous l'appelons le salut. Et le salut de quoi? Verset 17, bien sûr, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, ça viendra plus tard, mais pour le moment, il est là pour sauver le monde. Sauver le quoi? Le jugement. Parce que le monde est sous le jugement. Nous l'avons vu ce matin en première partie, Genèse chapitre 3, la chute, la malédiction est intervenue dans le monde. Et maintenant, l'homme doit être sauvé du jugement qui l'attend. Et verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est cela, c'est cette vérité-là qui permet à Paul de dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout a changé. Si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, et ce ne sont pas tous ceux qui s'appellent chrétiens qui le sont, mais si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, si nous avons répondu de la manière biblique à cet amour de Dieu, nous ne sommes pas jugés. Nous ne sommes plus sous la colère, comme le verset 36 le dit. Si nous avons fait le bon choix, si nous avons fait le choix biblique, à ce moment-là, tout a changé. Nous avons été transformés. Parce que nous avons répondu bibliquement à l'amour de Dieu. Mais malheureusement, la deuxième partie du verset 2, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel sont déjà et encore sous le jugement de Dieu. C'est le sens du verset 36, regardons le dernier verset de ce chapitre. Celui qui croit de nouveau, acte de la volonté, pas simplement être d'accord avec un ensemble de vérités, non, c'est bien plus que cela. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Tout a changé, tout est différent. Gloire à Dieu. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Littéralement, c'est déjà là. Non pas demeurera, le futur, non pas demeurer dans le passé, mais demeure, et encore là. Encore et déjà là. La colère de Dieu demeure sur lui. Et lorsque on pense à cela, on se dit quelle pensée terrible et effrayante, n'est-ce pas? Qu'il y ait des gens dans cette condition. Dieu ne veut pas que les gens soient dans cette condition. Il a tout fait pour qu'ils ne soient pas dans cette condition. Il a manifesté à l'extrême son amour pour eux. Et pourtant, il y a des gens dans ce monde qui rejettent, qui qui disent, face à cet amour de la part de Dieu, non, je n'en veux pas. Et à cause de ce choix qu'ils font, ils sont déjà sous la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure déjà sur eux. Et nous revenons au verset 18, et il est dit clairement qu'ils sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et bien sûr, pour le salut, il faut être bouleversé par l'amour de Dieu. Lorsque un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne l'a pas encore accepté comme son sauveur personnel, comprend qu'est-ce que Dieu a fait pour lui, lorsqu'il est touché par le Saint-Esprit, la chose logique à faire, et je dirais la chose qu'il fera automatiquement, c'est de se convertir, c'est d'accepter cet amour, de se laisser bouleverser par cet amour. C'est parce que les gens refusent de voir l'amour de Dieu tel qu'il est, qu'ils le refusent. Les gens dans ce monde ont aimé autre chose, le pouvoir, l'argent, d'autres gens, plus que Dieu. Et c'est ce que Jésus explique dans le verset 19. Nous n'avons pas lu ce verset, mais Jésus dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'ont pas compris c'est quoi réellement l'amour de Dieu. Et du coup, pour le salut, nous le savons, nous l'avons entendu, il faut se laisser bouleverser par l'amour de Dieu, et le résultat logique de cela sera une acceptation par la foi de ce salut que Dieu offre pour nous sauver de nos péchés et de nous faire entrer dans sa famille. Il faut que cette décision soit prise dans la vie de chacun. Mais si nous avons fait ce choix, que reste-t-il à faire? Pouvons-nous laisser de côté cet amour? Cet amour n'est-il que pour les inconvertis? Et une fois devenu chrétien, on passe à autre chose et on ne revient jamais là-dessus? Je crois que vous savez que non. Vous vous doutez que ce n'est pas le cas. Et en tant que chrétien, lorsque nous revenons à ces versets et nous les lisons, si nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Pierre va dire? Vous avez été rachetés à un grand prix, non pas avec des choses périssables, l'or, l'argent, des choses de valeur aux yeux des hommes, non, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, je vous soumets qu'il nous est impossible de rester indifférents et de ne pas être bouleversés par l'amour de Dieu lorsque nous le comprenons tel qu'il est. L'amour de Dieu n'est pas simplement pour les inconvertis. J'irai aussi loin que de dire l'amour de Dieu est bien plus pour les chrétiens que pour les inconvertis. Parce que les inconvertis comprennent l'amour de Dieu en ce qui concerne leur salut et ils doivent le comprendre. Mais le chrétien, une fois que quelqu'un se convertit, ben là, il a le Saint-Esprit qui habite en lui, et le Saint-Esprit le rend capable de comprendre de plus en plus l'amour de Dieu, et d'aller plus loin, et de manifester cet amour autour de lui. Et Jésus, dans cet entretien avec Nicodème, ramène la question à l'amour de Dieu. Dieu a tout fait. Et si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire si nous avons accepté par la foi Jésus-Christ comme notre sauveur personnel à un moment donné, nous avons besoin aujourd'hui, chaque instant de notre vie, de revenir à l'amour de Dieu pour nous. Parce que son amour agit encore dans notre vie. C'est cela qui a pu pousser Jean a écrit trois épîtres supplémentaires, surtout sa première, mais même la deuxième, la troisième, des épîtres qui mettent l'accent sur l'amour, et à qui est-ce qu'il écrit? Il écrit à des chrétiens. Il y a cet amour qui doit exister, et qui doit être manifeste, bien sûr, parmi nous, mais aussi envers le monde. Et parfois le monde ne le mérite pas. Parfois le monde est injuste, n'est-ce pas? Parfois et souvent le monde est orgueilleux. Parfois le monde nous rejette, se moque de nous, suit son propre chemin. Et dans ces moments-là, en tant que chrétien, même en tant que chrétien, je dirais, la réaction normale, peut-être la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est « bon, le monde fait ce qu'il veut, tant pis, très bien. Moi je vis ma vie, il vit le sien, ok. » Mais en tant que chrétien, nous ne pouvons pas. Nous sommes appelés à refléter l'amour de Dieu. Et si Jésus-Christ est venu ici sur la terre, alors que nous étions ses ennemis, alors que nous le rejetions, alors que nous étions ennemis, alors que nous étions loin de lui, il aurait très bien pu dire, bon, ils ne veulent pas de moi, je ne veux pas d'eux non plus. Tant pis, je leur ai donné une chance, maintenant je vais passer à autre chose. Mais l'amour de Dieu ne l'a pas permis de faire cela. Et si nous sommes chrétiens, disciples de Dieu, ceux qui apprennent et ceux qui veulent suivre le Maître, nous aussi, il faut manifester cet amour de Jésus-Christ. Même, et je dirais surtout, envers ceux qui ne le méritent pas. Et cela est extrêmement dur, parce que notre tendance naturelle, c'est de manifester l'amour envers ceux qui le méritent. Les gens aimables, c'est facile de les apprécier. Les gens qui ne le sont pas, là, c'est autre chose. Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Et oui, c'est dur. Je dirais impossible sans la grâce de Dieu. Sans cette capacité surnaturelle dont nous avons parlé il y a quelques semaines, pour pouvoir manifester cet amour qui vient de Dieu. Cet amour d'en haut, cet agapé. Cet amour d'en haut, ce n'est pas fabriqué par nous, par nos efforts, notre expérience. Non, cela vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes bouleversés par tout l'amour que Dieu a déversé sur nous, à ce moment-là, il nous sera facile de pouvoir manifester cela envers les autres. Dieu veut nous apprendre sur son amour. Il a révélé l'étendue de son amour dans la personne de Jésus-Christ. Il a révélé l'étendue de son amour en nous sauvant. Et maintenant, il veut voir ce même amour profiter dans votre vie, dans la mienne. Et la question à se poser, c'est que le reflétons-nous. Dans notre famille, Dieu veut qu'il y ait l'amour selon lui. Pas simplement une appréciation les uns pour les autres. Ah, j'apprécie, tout. Il faut cela. Mais ça peut aller jusqu'à un certain point. L'amour de Dieu permet d'aller plus loin. Dans le travail, parfois des gens qui ne sont pas aimables, leur manifester l'amour de Dieu. D'avoir une bonne parole, d'avoir une bonne attitude, c'est ce que Dieu veut. Et c'est lui qui nous rendra capable de le faire lorsque nous nous souvenons de ces versets. Lui, il nous a sauvés. Lui, il n'a pas agi comme cela avec nous. Non, il était plein d'amour, plein de grâce envers nous. Dans nos différentes interactions au cours de la semaine, parfois on est emmené à avoir des interactions avec des gens désagréables. Il faut l'avouer. Il y a des gens désagréables dans le monde. Des gens avec lesquels nous préférions ne pas avoir de contact, et pourtant, Dieu les met sur notre chemin. Et à ce moment-là, si nous sommes chrétiens, notre devoir, notre responsabilité, et il faut le faire avec joie, c'est de manifester l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement, parce que nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Et Dieu nous appelle à travers ces versets de revenir à cette vérité centrale. Si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel à un moment donné, voilà ce que Dieu attend de nous. Et bien plus que cela, il nous rend capables de le faire. Il ne nous dit pas simplement, vas-y, faites-le, sans nous donner d'aide. Non, son esprit est en nous, sa parole est là. Et lorsque nous plongeons dans la parole, lorsque nous méditons sur les versets comme ceux-là, nous commençons à être transformés par cet amour qui a été déversé en nous, et ainsi nous serons capables de le manifester envers les autres. Alors, deux questions à se poser ce matin. Ai-je reçu l'amour de Dieu? Suis-je réellement converti? À un moment donné, l'ai-je accepté? Est-ce que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, il n'y a pas de meilleur moment. Deuxième question à se poser, c'est si je suis chrétien, est-ce que je manifeste l'amour de Dieu? Et nous sommes habiles et prompts à nous tromper en disant, mais bien sûr, oui, je le fais. Ah bon? L'épreuve. Si on examine notre propre vie, l'épreuve sont-elles là? Non pas simplement avec nos avis, nos idées, mais face à la parole, est-ce que je peux dire en toute honnêteté que ma vie reflète une vie d'amour dirigée par Dieu? Nous avons tous des progrès à faire dans ce domaine. Personne ne peut dire je reflète parfaitement l'amour de Dieu. Personne. Nous avons tous des progrès à se faire. Et dans ces moments où, oui, nos pensées se tournent vers l'amour, vers de bons sentiments, vers ses relations et tout, que Dieu nous aide à revenir à ce que lui attend de nous. De faire une évaluation de notre vie et de reconnaître, oui, j'ai des problèmes à faire. Je dois aller plus loin dans mon amour que je dois envers les autres. C'est ce que Dieu attend de moi. Et si je comprends réellement ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Dieu, il a tout fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour lui? Feu? Rien? Ou est-ce que je fais beaucoup? Est-ce que je me laisse bouleverser par son amour pour avoir une vie qui lui plaît à chaque instant? Oui, notre grand Dieu, tu vois notre cœur, tu vois au-delà des apparences, et tu vois le cœur, c'est toi qui nous as formés, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Rien ne peut être caché à tes yeux. Aide-nous à nous évaluer de manière honnête, franche devant toi. Nous voyons ta parole, Seigneur. Nous savons ce que tu as pour nous. Rends-nous capables de manifester de plus en plus ton amour. Aide-nous à être fidèles à toi dans l'obéissance dans tous les domaines, Seigneur. Que tu continues de toucher notre cœur pour toi, que nous ne restions pas indifférents face à tout ce que tu as fait pour nous, mais au contraire, que notre cœur soit stimulé avec ton amour, et ainsi nous soyons des reflets concrets, visibles, manifestes pour tous de ton amour, et Seigneur, ainsi que tu sois glorifié par ce que nous reflétons de toi dans ce monde autour de nous. Nous demandons ton aide, nous sommes incapables par nous-mêmes. Rends-nous capables, Seigneur, par ton Saint-Esprit. entendons-nous. Amen.